Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors on le disait, dans le marché, il y a le retour de quelques mal-aimés aujourd'hui. Téléperformance, oui, qui progresse bien. Worldline, oui, qui progresse bien aussi. Et puis peut-être aussi les biotech et les medtech. Il faut peut-être arrêter d'ignorer, peut-être arrêter de leur tourner le dos dans vos portefeuilles. Marc Lebozec est avec nous, expert de ces valeurs santé, biotech. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bienvenue. On ne cesse de dire depuis des années que nos biotech, nos medtech françaises et européennes déçoivent, notamment par rapport aux biotech et medtech américaines. Vous dites, ah, c'est vrai, mais ça l'est peut-être un peu moins désormais.
Bon, ça, c'est vrai, oui, parce que on avait quelques locomotives qui brillaient en bourse et qui n'ont pas délivré. Mais pour autant, vous avez tout un tas d'histoires qui arrivent et qui sont arrivées récemment et qui sont tout à fait significatives. Et on constate qu'on peut gagner de l'argent dans ce domaine-là. Donc il y a quelques exemples de sociétés non cotées. Une boîte à Nice qui s'appelait Terrachon, qui a été rachetée par Pfizer pour près d'un milliard. Là, très récemment, il y a quelques jours, il y a une boîte française lyonnaise qui a été rachetée pour un milliard de dollars. Une boîte qui s'appelle Amolyt. Et donc il y a des histoires de ce type-là. Et puis quand vous regardez,
vous répétez, Amolyt, vous en avez, vous tous qui nous suivez, jamais entendu parler sans doute, un rachat par une entreprise américaine pour combien?
Un milliard de dollars.
Oui, ouais. Oui. Ouais. Donc il y a de la valeur.
Il y en a quand même un certain nombre des histoires de ce type-là. Donc je pense qu'il faut pas désespérer. Et c'est très français de regarder le verre à moitié vide. Mais on oublie aussi et on aime bien brûler ce qu'on a idolâtré par le passé. On oublie que sur la période 2012, 2013, 2014 et une partie de 2015, les biotech étaient le secteur qui performait le mieux, tous secteurs industriels confondus. Et c'est vrai que à partir de 2015-2016, ça a commencé à être plus compliqué. Mais c'est pas complètement désespéré, me semble-t-il.
Où le bas blesse-t-il encore, malgré tout? Pour nos biotech, alors du coup, elles sont, ouais, pas chères, elles valent pas, et donc, enfin, elles valent quand même quelque chose, mais ouais, peut-être pas beaucoup, et du coup, les Américains les dévorent. C'est peut-être dommage, d'ailleurs, pour notre souveraineté. Mais voilà, où le bas blesse-t-il encore pour nos biotech?
Ouais, c'est une conviction très personnelle. Je pense que le bas blesse essentiellement sur le financement. C'est-à-dire qu'on a très peu d'acteurs du financement, très peu de nouveaux acteurs du financement. Moi, j'ai monté deux fonds au cours des 10 dernières années. C'est compliqué de monter des fonds. C'est extraordinairement compliqué. Plus difficile que de financer une biotech, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Je pense que c'est là que le bas blesse. Et le bas blesse parce que on a finalement beaucoup axé l'investissement sur la science, ce qui est très noble. Mais lorsqu'on parle d'investissement, on entend tout de suite après retour sur investissement. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur pour la prochaine décennie, c'est s'appuyer sur des retours sur investissement permettent aux investisseurs particuliers, aux institutionnels, de venir s'intéresser à nouveau à ce secteur qui a un potentiel de croissance infini, puisque ça repose sur la connaissance du vivant.
Oui, on a quand même ce retour en bourse des grands laboratoires qu'on disait fichu face aux biotech.
Absolument.
Il y a quelques années encore. Puis là, maintenant, à nouveau, la performance se concentre dans les grands laboratoires. Est-ce que ça signifie que désormais, pour les biotech et les medtech, il y a un petit peu moins de place malgré tout?
Non, pas du tout, parce que l'innovation reste le fait pour l'essentiel de petites entreprises. C'est toujours le même discours, c'est-à-dire que l'innovation vient de groupes de petits groupes de personnes pluridisciplinaires, des gens qui font de la stat, des gens qui font de la pharmacologie, des gens qui font de la bioanalyse, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des gens complètement complémentaires et qui vont créer quelque chose motivé par la gloire, par l'argent, voilà. Et ça reste tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi j'estime que c'est 90%, au moins 90% de l'innovation qui vient de petites structures, de petites organisations. Donc les big pharma, elles, se sont recyclées fondamentalement. On a vu leur investissement en recherche amont réduire et ont déplacé les sommes vers les fins d'études cliniques qui coûtent très très cher. Là, j'ai monté une start-up avec des amis. On regarde la mise au point d'un médicament contre une maladie ophtalmique, contre le glaucome. On estime que pour enregistrer un médicament dans le glaucome, il faut faire une étude finale de 5 ans. Donc faire une étude de 5 ans, ça coûte très 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 cher, 5 ans sur des centaines voire des milliers de patients. Donc les labos pharma maintenant se sont spécialisés sur ces essais cliniques finaux et sur la commercialisation, ce qui est tout à fait logique et vertueux et qui correspond à une forme de complémentarité avec les petites sociétés.
Un exemple, parce qu'on est une émission d'investisseurs et d'investissement BFM Bourse, un exemple de société dans cet univers, les biotech, les medtech, qui à vos yeux présentent un beau potentiel et un rapport justement risque-performance plutôt positif.
Moi, je voudrais mettre en avant une société lyonnaise qui s'appelle Genoway, qui fait des modèles animaux pour des études précliniques, donc avant qu'on ne les teste sur des êtres humains. Ça pose un vrai problème pour les activistes, mais faut toujours se souvenir que si on n'avait pas ces modèles animaux, on devrait passer par des tests sur l'homme immédiatement, ce qui fait un petit peu peur. C'est une entreprise qui a réussi à doubler son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, et sans surprise, on peut le dire, puisque le marché a toujours raison, le cours de bourse a doublé sur cette même période. Et la société recèle encore beaucoup de potentiel de croissance, d'une part, de ses ventes, mais aussi, d'autre part, de sa rentabilité. Parce que, historiquement, elle faisait des modèles animaux pour le compte de tiers. Donc, un labo académique ou une biotech venait les voir en leur disant « J'aimerais muter tel gène. Est-ce que vous pouvez me faire une lignée, une famille de souris qui ont tel gène muté ?» Et puis, désormais, l'essentiel de leur chiffre d'affaires vient de modèles sur catalogue. Donc, ils ont eux-mêmes créé plusieurs dizaines de modèles animaux, de modèles souris pour l'essentiel, qu'ils vendent à la pièce avec une rentabilité très supérieure, presque trois fois supérieure.
Genoway, donc, qui est cotée en bourse.
Oui.
Une société lyonnaise cotée à Paris. Pas de jaloux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Marc, de nous avoir accompagnés. Marc Lebozec, donc, ce coup d'œil régulier sur l'univers des biotech et des medtech.